Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR News.
It's in the house.
Radio Rosanati Paris.
Lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter. Le 18-20.
Un jour dans le monde, jusqu'à 19h, au sommaire, l'escale reportage en Chine. Une entreprise française restaure un lac, lieu de halte essentiel pour les oiseaux migrateurs. Dominique André est allé sur place. Bien sûr, sur les radars de l'actualité avec Amélie Perrier. Et puis l'Europe, comme chaque jeudi avec Quentin Dickinson. Quelques idées pour l'Europe en 2019. Le monde à l'envers, Jean-Marc Four. À Washington, où le Congrès fait sa rentrée aujourd'hui, eh bien, la vieille génération tient le pouvoir. Mais d'abord, Israël, qui va voter dans 3 mois.
Pierre Veil, Un jour dans le monde.
Il y aura donc des élections anticipées en Israël le 9 avril prochain. Elles étaient prévues en novembre. La coalition gouvernementale a voté la dissolution du Parlement. C'est l'occasion de faire le point sur la situation politique dans ce pays, l'état de l'opinion, les enjeux du scrutin pour lequel le Premier ministre Benjamin Netanyahou reste favori selon les sondages, malgré ses ennuis judiciaires. Alors nos invités pour en parler au téléphone en Israël, Denis Charby, qui est maître de conférences en sciences politiques à l'Open Université de Tel Aviv. Son dernier livre est paru aux éditions du Cavalier Bleu. Son titre, Israël et ses paradoxes, idées reçues sur un pays qui attise les passions. Denis Charby, bonsoir.
Bonsoir.
Dans ce studio à mes côtés, Alain Diekhoff, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur du Centre de Recherche Internationale de Sciences Po Paris, directeur de recherche au CNRS. Vous avez publié Le conflit israélo-palestinien, 20 questions pour vous faire une opinion. C'est paru chez Armand Collin. Alors première question pour vous, Denis Charby, à Tel Aviv. Pourquoi des élections anticipées?
Alors oui, la question est fort pertinente parce que il y a 3 semaines, Benjamin Netanyahou parvenait à convaincre son partenaire de la coalition qu'il ne fallait surtout pas anticiper les élections et maintenir le calendrier de novembre 2019. Seulement, entre-temps, le procureur de l'État, en tout cas le poste qui correspond à cette fonction-là en France, annonce que et la police et le procureur de l'État estiment que, au vu de l'enquête et du dossier qui ont été menés pendant plusieurs années, il faut mettre en examen Benjamin Netanyahou. Alors certes, ce n'est pas la dernière étape, il y a une autre étape, c'est l'audition, c'est l'avis du conseil juridique du gouvernement et l'audition, mais il est fort probable, pense-t-on, et en tout cas c'est ce qu'a pensé Benjamin Netanyahou, qu'il le mettra en examen. Et là, à ce moment-là, Netanyahou décide de faire une volte-face après avoir convaincu son partenaire qu'il ne faut pas procéder à des élections anticipées, mais attendre le mois de novembre. Voilà que Netanyahou change de scénario et préfère être réélu, s'il est réélu, pour rendre plus difficile la tâche au conseiller juridique du gouvernement de le mettre en examen, s'il décide de le mettre en examen. Et là, ça crée une bombe politique, puisque personne s'y attendait. Et vous voyez, le calendrier est très serré, moins de 3 mois. Et pour, donc 3 mois, ça veut dire en gros 1 mois et demi de campagne électorale et 1 mois et demi pour mettre tout en place, les primaires dans les partis qui organisent des primaires. Et malgré le fait que ça se réduit à 45 jours, eh bien vous avez pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours une nouvelle bombe politique. Une fois la rupture à droite avec le départ de Bennett du parti du foyer juif, et oui, hier ou avant-hier, le parti travailliste qui éclate, qui explose, cette alliance qui avait eu lieu pendant quelques années. Et on n'est pas prêt d'avoir d'autres surprises, notamment la fameuse création d'un nouveau parti avec un ancien chef d'état-major dont tout le succès repose sur son charisme alors qu'il n'a pas dit un seul mot.
Cet ancien chef d'état-major, c'est Benny Gantz. Alain Diekhoff, sur cette manœuvre de Benjamin Netanyahou qui, d'après ce que nous dit Denis Charby, lance des élections anticipées pour échapper à une poursuite judiciaire du procureur.
Alors, la question des ennuis judiciaires de Netanyahou a certainement joué, mais il faut aussi rappeler que sa coalition était très étroite. Il avait 61 députés sur 120 depuis le mois de novembre, puisqu'il avait été lâché par son ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, qui l'accusait d'être trop souple sur les représailles contre le Hamas à Gaza. Et donc, 61 députés en Israël, c'est vraiment très très juste, d'autant plus que il avait une crise gouvernementale qui s'annonçait autour de la question de la conscription des religieux ultra-orthodoxes, puisque la Cour suprême avait dit que d'ici la mi-janvier, il fallait que cette loi soit votée. Or, ça paraissait extrêmement difficile, étant donné que Netanyahou dépend précisément des partis ultra-orthodoxes, du parti ultra-orthodoxe, pour conserver cette majorité. Donc, en réalité, si on peut dire, les jeux étaient assez largement faits pour lui, et je pense que la conjonction à la fois de ses ennemis judiciaires et de cette coalition très étroite faisait que c'était finalement pour lui la meilleure solution dans une perspective où la possibilité qu'il redevienne Premier ministre est quand même très forte.
Justement, à ce propos, Denis Charby, en Israël, que disent les derniers sondages ?
Alors, il faut dire que les sondages... Alors d'abord, en 2015, ils se sont trompés. Donc, ils n'ont pas prévu, à aucun moment, ils n'ont prévu le renversement de tendance qui a permis à Netanyahou de remporter de 6 sièges sur son concurrent, le Parti travailliste. Et là, ils sont d'autant plus prudents qu'on annonce 4 à 5 nouveaux partis comme dans l'offre politique israélienne. Or, depuis, on va dire, une trentaine d'années, il y a toujours un parti nouveau qui s'annonce comme une sorte d'outsider et qui remporte plus ou moins bien la mise en fonction des conjonctures. Mais là, on n'a pas moins de 4. On a ce fameux nouveau parti de la nouvelle droite fondé par Bennett et Shaquette, ex-membres dirigeant oui. du parti religieux. On a le parti d'une dissidente du parti de Lieberman qui a fait qui est une brillante parlementariste sur le plan social et qui compte attirer notamment le suffrage des femmes, alors qu'il n'y a jamais eu de parti de féministe en Israël représenté aux élections. Au parti travailliste, il va peut-être s'annoncer quelque chose, et puis il y a ce parti de Benny Gantz dont on ne sait pas grand-chose, et un ancien chef d'état-major qui se présente également, de telle sorte qu'il me semble qu'au moins dans les 15 jours à venir, les sondages, il y en aura bien sûr, les instituts sondages font leur métier, mais on va avoir des fourchettes totalement différente, parce qu'en fait, le public ne sait même pas quelle est l'offre définitive qu'il n'aura finalement qu'au milieu du mois de février.
On a quand même le sentiment qu'il y a d'un côté Netanyahou et le Likoud, et puis en face une opposition totalement fragmentée. Et si j'ai bien lu quelques journaux israéliens sur le net, pour l'instant, Netanyahou semble assuré de pouvoir constituer à nouveau une coalition de droite et d'extrême droite. Le Likoud pourrait obtenir, je crois, 30 sièges, évidemment. Ça peut évoluer dans les prochaines semaines. Alain Diekhoff, comment expliquez-vous cette incroyable longévité de Benjamin Netanyahou, déjà plus de 10 ans au pouvoir ?
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un homme politique extrêmement habile, et le fait de pouvoir survivre en effet en Israël politiquement 10 années de suite, ce qui est son cas, est déjà quelque part une prouesse. Ça c'est le premier élément. Ensuite, il y a des éléments de conjoncture, évidemment, des conjonctures politiques qui expliquent cela. L'élément le plus fondamental, c'est certainement en effet qu'il n'y a plus véritablement d'opposition. Enfin, il y en a bien évidemment, mais elle est extrêmement faible. Le parti travailliste aujourd'hui n'est plus que l'ombre de ce qu'il avait été jadis. 24 députés aujourd'hui sur 120, c'est pas grand-chose quand on se souvient que ce parti a été, il y a, c'est vrai, très longtemps, un parti qui pouvait en avoir 45. Donc, on voit un petit peu la chute. Ce qui me paraît absolument certain aujourd'hui, c'est que d'ici la fin du mois de février, date à laquelle les listes devront être définitivement closes, les listes des partis qui se présentent, eh bien, il y aura une recomposition. Il y aura une recomposition. En effet, en particulier à mon avis au centre, parce que comme l'a dit très justement Denis Charbit, il y a beaucoup de partis qui émergent, il est très clair que certains disparaîtront en cours de route, en quelque sorte, ou en tous les cas, s'ils tentent leur chance, ils n'auront rien au résultat. Et je pense qu'en effet, la nouveauté qu'on a vue depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est l'émergence de partis qui essayent de se positionner au centre. Il y a eu le parti Yesh Atid qui continuera ouais. certainement à jouer un rôle, il y a eu le parti Kulanu qui s'était présenté la fois dernière, mais il y en a deux autres qui essayent de jouer sur cette carte centriste, le parti de Tzipi Livni et le parti oui. de Benny Gantz qui va apparaître, dont on ne sait en effet pas grand-chose, mais qui va aussi jouer au centre. Il y en a trop pour l'électorat potentiel, donc il y aura une recomposition.
Durant cette campagne électorale, Denis Charby, est-ce que la paix possible avec les Palestiniens, est-ce que c'est encore une préoccupation majeure pour les Israéliens aujourd'hui ? Est-ce que ça va dominer la campagne électorale selon vous ?
Alors, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. C'est une préoccupation seconde, et j'ai presque envie de vous dire une préoccupation secondaire. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas dans l'agenda d'aucun des partis, y compris même le Meretz, dans la mesure où il faut bien comprendre ce qu'a réussi à faire, c'est une première dans l'histoire d'Israël depuis les années 90, il n'y a pas eu de négociation entre Israéliens et Palestiniens depuis 2015. Alors, depuis 2014 en fait, et depuis en tout cas la formation de ce nouveau gouvernement, et on va je suis bien obligé de reconnaître que ça n'a manqué à personne, d'autant que aux États-Unis vous avez Donald Trump, et que Donald Trump, d'une part, s'est pas beaucoup intéressé à la question, il nous promet un plan. Je suis même pas sûr qu'il existe, je suis même pas sûr qu'il ait signé, oui. On n'en sait absolument rien. Et donc, de ce fait-là, ce serait discuter sur des grands principes que de vouloir mettre ça en priorité.
Denis Charby.
Ça ne correspond pas du tout.
Denis Charby.
Et d'autant qu'il n'y a même pas un cycle de violence tel qui justifierait de reposer la question.
Je vous interromps un instant, vous parlez d'un parti, le parti Meretz, c'était un parti d'extrême-gauche qui défend l'idée d'un État palestinien aux côtés de l'État israélien. Mais vous nous dites que ce sujet du conflit avec les Palestiniens n'est plus prioritaire. Mais pourquoi ?
Il est prioritaire parce que, d'une part, on n'avait pas les Américains qui sont derrière pour pousser des quatre fers, et ce n'est pas la voix de l'Europe qui a suffisamment de poids pour inciter les deux partenaires à le faire. Et d'autre part, on n'avait pas non plus un cycle de violence qui justifierait, en tout cas une partie de l'opinion, à exiger un retour à cette négociation. Donc dans une situation où, finalement, par rapport au chaos régional, la situation est plus ou moins bien gérée. Alors c'est vrai qu'il y a eu quand même à Gaza des troubles entre le mois de mai, mais voilà, même là on a obtenu sans faire sans même imaginer un retour à la négociation, on a pu arranger les choses de manière, parce qu'on appelle la diplomatie tacite. Mahmoud Abbas est en fin de course, il a plus de 80 ans voilà, c'est la relève qu'on attend et j'ai envie de dire surtout que ce n'est pas, et là il faut tenir compte de la puissance régionale que constitue Israël aujourd'hui, ce n'est pas du tout de l'intérêt du gouvernement actuel. Au contraire, sa coalition aurait volé en éclats depuis bien longtemps et elle a tenu précisément parce qu'il n'y avait pas de négociation.
Alain Diakov ?
Oui, il me paraît assez clair que d'un point de vue géopolitique, la question palestinienne est devenue périphérique au Moyen-Orient. Ça me paraît absolument évident. Il suffit de voir que l'obsession majeure des États de la région, des États, disons, qui comptent, hein, d'un côté Israël par exemple et de l'autre côté l'Arabie Saoudite et même l'Égypte, c'est l'Iran, c'est le renforcement de la puissance de l'Iran, la tentative de l'Iran, même si elle a été en partie circonscrite, de se doter en tous les cas des capacités de maîtrise du nucléaire, c'est ça qui compte régionalement. Et là-dedans, et bien sûr évidemment aussi le chaos qui a pu exister en Syrie, le fractionnement de la Syrie, ça compte beaucoup plus que la question palestinienne, qui en plus évidemment est handicapé par le fait que il y a d'un côté le Hamas et de l'autre côté le Fatah et l'autorité palestinienne. Donc les Palestiniens sont divisés politiquement, ils sont divisés géographiquement entre Gaza et la Cisjordanie. Donc tout ça fait que en effet cette question ne compte pas vraiment, et je pense en effet qu'elle comptera très très peu dans la campagne électorale qui s'annonce.
Denis Charbier, est-ce que vous avez le sentiment que l'idée souvent développée par Benjamin Netanyahou, à savoir ce conflit avec les Palestiniens, il est insoluble, gardons le statu quo actuel, c'est la seule solution. Est-ce que cette idée, elle est désormais majoritaire dans votre pays ?
Moi, j'ai le sentiment que les Israéliens, en tout cas, ils trouvent leur compte. Pourquoi ? Parce que la mission principale, je dirais, de l'armée israélienne, c'est d'intercepter, de limiter, d'anticiper des actes terroristes. Une intifada, on n'en voit pas comment politiquement elle pourrait être récupérée précisément à cause de cette division dont parlait Alain Diakov. Et donc, c'est vrai que dans ce contexte-là, on a le sentiment que ce qui correspond, on préfère la certitude actuelle, c'est-à-dire avec des niveaux d'intensité qui peuvent faiblir, qui peuvent progresser, mais qui restent, je dirais, contrôlés, plutôt que l'incertitude qu'apporterait un processus de paix dont on ne sait pas s'il aboutirait, et s'il aboutit, est-ce qu'il serait respecté par toutes les parties ? Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais qu'une certaine manière, c'est une politique très à court terme que suivent les Israéliens. Qu'est-ce qui se passera dans 20 ans, ou dans une autre génération, ou dans une autre conjoncture, ou avec un autre président ? président américain. Tout ça, les Israéliens ne s'en préoccupent pas aujourd'hui. Ils ont d'autres chats à fouetter que celui de la question palestinienne, qui reste, je dirais, il faut bien le reconnaître, essentiellement une question morale. Est-ce que on peut continuer moralement de maintenir l'occupation, ou bien ça passe par pertes et profits et on maintient les choses comme telles.
Alain Diakhoff, apparemment,
on continue
la situation actuelle.
Il me paraît très clair que le gouvernement actuel, depuis maintenant donc 2009, en réalité, même s'il a, il y a eu des élections entre temps, mais c'est toujours le Benjamin Netanyahu qui était premier ministre, a choisi de gérer le conflit et ne cherche pas à le résoudre, même si évidemment il faudrait aussi qu'il ait un partenaire qui soit assez clair dans face à lui, ce qui n'est pas le cas puisque les Palestiniens sont divisés. Mais j'ajouterais quand même que c'est quelque part un faux statu quo aussi, et ça il faut quand même l'ajouter, c'est-à-dire qu'en réalité, pendant ces 10 années, s'il n'y a rien eu d'un point de vue diplomatique, il y a une chose qui est indéniable, c'est que le nombre d'Israéliens qui se sont installés en Cisjordanie a cru, c'est-à-dire qu'il y a une croissance démographique et que l'expansion des colonies se poursuit parallèlement. Donc c'est quelque part un faux statu quo.
Qui rend de plus en plus impossible la création d'un État palestinien.
Évidemment, qui rend objectivement la résolution du conflit de plus en plus difficile, et qui amène d'ailleurs certains partis qui étaient membres de la coalition, comme le parti du foyer juif, qui conduit certains de ces partis à réclamer purement et simplement l'annexion de 40% de la Cisjordanie à Israël.
Alors, Denis Charby, on termine cet entretien, mais quelles sont les préoccupations numéro un des Israéliens alors ?
Alors, je dirais que d'abord, les préoccupations sociales et économiques, c'est-à-dire que quand bien même la situation macroéconomique est bonne, tous les indicateurs sont bons, même si la croissance est un tout petit peu plus faible que celle qui a été prévue, encore une fois, la situation est bonne sur le plan macroéconomique. En revanche, le pouvoir d'achat est très affaibli, la pauvreté sévit encore. Ça, c'est un premier problème. Je dirais que le vrai clivage aujourd'hui qui oppose le centre et la gauche d'un côté et la droite de l'autre, c'est la notion de l'état de droit, la séparation des pouvoirs, la préservation de l'autonomie de la justice et de la Cour suprême par rapport au pouvoir politique, je dirais les libertés fondamentales. C'est là que se joue aujourd'hui le clivage qui se superpose au second, bien sûr, celui concernant les territoires, mais c'est celui qui, à mon avis, va être, sinon au centre, va certainement être une des grandes préoccupations de l'agenda politique.
Alain Diakhoff ?
Tout à fait d'accord. Je pense qu'en effet, la question, c'est celle du devenir de la démocratie libérale en Israël, parce qu'en effet, les différents gouvernements Netanyahou, avec la majorité dont ils disposaient, ont contribué à voter des lois qui restreignent sur certains plans très très clairement ces libertés fondamentales et constituent des accrocs évidents à l'état de droit. Donc ça, ce sera un enjeu de la campagne.
Il y a quelques jours, on apprenait la mort d'Amos Oz, c'était l'écrivain israélien le plus connu à l'étranger, ardent défenseur de la paix avec les Palestiniens. Il ne cessait de dénoncer l'extrémisme croissant du gouvernement israélien. On a le sentiment qu'une majorité d'Israéliens admirait Amos Oz, mais que finalement, on n'écoutait pas ce qu'il disait. On aimait bien son humour, mais tout ce qu'il dit sur les Palestiniens, le sort des Palestiniens, aujourd'hui, c'est complètement oublié, Alain.
C'est tout le problème des intellectuels en politique. Je dirais, quand je dis intellectuel, j'y inclus évidemment les écrivains comme Amos Oz, c'est qu'ils portent une voix qui est une voix morale, qui est aussi une voix politique, mais que s'ils n'ont pas de relais de formation politique, de parti qui relaient leurs paroles, eh bien quelque part ils prêchent malheureusement dans le désert.
Denis Charby, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous à Tel Aviv, maître de conférence en sciences politiques à l'Open Université de Tel Aviv. Et merci à Alain Diakhoff, directeur du Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris. Merci à tous les deux.
France Inter, Pierre Veil. Un jour dans le monde.
Un jour dans le monde. Prochain rendez-vous, Amélie Perrier, sous les radars de l'actualité. Et puis, escale reportage en Chine, un lac réaménagé pour les oiseaux migrateurs. Dominique André et s'est rendu sur place. Le jeudi, rendez-vous avec l'Europe et Quentin Dickinson. Quentin qui est à Bruxelles. Bonsoir Quentin.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous et à toutes.
2019, alors des idées circulent pour l'Europe ?
Oui, car si les Français ont besoin d'idées, eh bien qu'ils viennent les chercher à Bruxelles.
Parfait, on en parlera vers 18h50 et puis 18h55, le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Beaucoup d'anciens dans la classe politique américaine, ça ne bouge pas beaucoup.
Hein. C'est la rentrée ce soir, hein, à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi à sa tête, 79 ans, Donald Trump, 72 ans, toujours à la Maison Blanche. Non, il est loin le temps où les États-Unis portaient des quatragénaires à leur tête.
À tout à l'heure Jean-Marc, le 21e album de Marianne Faithfull, Negative Capability, un extrait, elle chante avec Nick Cave, The Gypsy Fairy Queen.
Different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. Follow the gypsy fairy queen. We exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did.
Marianne Faithfull avec Nick Cave, Negative Capability, c'est un jour dans le monde et il est 18h40.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasimov Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Avec Amélie Perrier sous les radars de l'actualité. Amélie, un retour au pays extrêmement douloureux, au Royaume-Uni.
Le retour des Britanniques mariés de force à l'étranger.
Marguerite de Valois. Acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre? Marguerite de Valois, acceptes-tu pour... Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme.
Alors vous avez peut-être connu le film La Reine Margot, mais là, ce n'est ni une fiction, ni du passé. La presse britannique vient de révéler qu'on demandait aux victimes actuelles de mariage forcé de rembourser les frais de rapatriement au gouvernement. Une double peine. On parle ici de plusieurs centaines d'euros. Le Times cite une facture adressée à quatre jeunes femmes retenues prisonnières dans une école religieuse au Somaliland. Envoyées là-bas par leur famille, elles ont été battues jusqu'à ce qu'elles acceptent cette union de force. Elles doivent aujourd'hui l'équivalent de 820 euros. Aux femmes majeures, on propose aussi des prêts à rembourser. Plutôt gêné, hein, le ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt.
Of course, we should always behave with compassion.
Ah, bien sûr, dit-il, on doit agir avec compassion et humanité dans toutes les situations. Mais je vais aller au fond des choses avant de vous donner une réponse définitive, dit le chef de la diplomatie à BBC 4. C'est moralement répugnant, a dit la travailleuse chargée des questions étrangères au Labour. C'est stupéfiant, selon cette fois le conservateur qui préside la commission des affaires étrangères aux communes. Il salue toutefois le travail de l'unité créée spécialement pour lutter contre ces mariages forcés. C'est cette unité s'est emparée en 2017 de près de 1200 cas, dont une majorité au Pakistan ou au Bangladesh, un cas sur 10 quand même au Royaume-Uni.
Amélie, un autre retour, celui des baleines quand l'océan nous parle.
Et vous reconnaissez peut-être ici le chant des baleines. Des baleines dont on a encore du mal à comprendre le langage et le comportement. Surtout quand elles s'échouent par centaines sur des plages en Nouvelle-Zélande par exemple. C'est le Guardian qui nous emmène dans un grand reportage là-bas, en terre maori, devenue capitale mondiale des échouages de baleines. On recense en moyenne 300 animaux qui viennent mourir sur les plages néo-zélandaises chaque année. Le mois dernier, 140 baleines se sont échouées en quelques jours. Alors les scientifiques évoquent des maladies, une erreur de navigation, une marée trop rapide, des requins les ayant coursés, mais surtout les chercheurs accusent le changement climatique, le réchauffement des océans. Leur proie se rapproche des côtes et oblige les baleines à se nourrir plus près des terres. Les Maoris, eux, y voient autre chose. Ils considèrent les baleines comme leurs ancêtres, leurs taonga, leurs trésors. Et quand elles ont décidé de mourir, eh bien, elles reviennent dans leur famille, chez les Maoris donc. Elles viennent leur dire à quel point l'avidité de l'homme sur l'océan leur fait mal. Une sorte de don de leur corps. Ensuite, ces tribus Maoris prélèvent les os, la graisse, les yeux et les dents pour sculpter des objets de culte ou des médecines traditionnelles. Des pratiques encore mal acceptées par de nombreux Néo-Zélandais.
Et pour terminer, Amélie Perrier, certaines compagnies font tout pour vous faire préférer l'avion.
Pour aller à Hong Kong, centre d'affaires international, plaque tournante de l'Asie, Cathay Pacific vous offre le plus grand nombre de vols sans escale. Une flotte équipée de moteurs Rolls-Royce, des hôtesses venues de 10 pays d'Asie. Nous faisons tout pour que vous arriviez en meilleure forme.
Et Cathay Pacific va même au-delà pour améliorer le confort de ses passagers. C'est la grosse bourde de ce début d'année. La compagnie a mis en vente, dans la nuit du Nouvel An, des billets de première classe et de classe à faire pour des vols entre le Vietnam et l'Amérique du Nord à 670 $ l'aller-retour. 670 $. Alors, faut savoir que normalement, la facture s'élève à 16 000 $ en première classe et 4 000 à 6 000 $ en classe à faire. Cathay ne pouvait pas se permettre de ne pas reconnaître ses billets comme réels, hein, avec des bonnes conditions, des billets à prix cassés, parce que eh bien, son image a été cornée récemment, puis le piratage massif de ses données passagers, un piratage que la compagnie a admis très très tard.
Amélie Perrier, sous les radars de l'actualité, à la semaine prochaine avec Fabienne Saint-Esse.
Sans faute.
Merci Amélie.
France Inter,
Doha, Harare, Jérusalem,
Pékin, le 18-20,
le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul,
Washington, San Paolo,
Beyrouth, France Inter.
Et voici l'escale reportage en Chine à la demande des autorités chinoises de la ville de Kangping dans le nord du pays, le nord-est du pays. Une entreprise française, Biotop, a restauré le grand lac Wolong qui est une halte mondiale des oiseaux migrateurs. Le projet a été porté par le directeur en Chine de cette PME française, il est ornithologue. Il a mené un programme complet de restauration du lac, de sauvetage des oiseaux et d'éveil des consciences locales à l'environnement. Les oiseaux migrateurs sont de retour au lac Wolong. Reportage sur place, Dominique André avec Shenyan Hu.
C'est un lieu inconnu de beaucoup de gens dans le monde qu'on aurait bien du mal à situer sur une carte. Dans le nord-est de la Chine, la province du Liaoning abrite le lac Wolong et ses centaines de milliers d'oiseaux migrateurs qui font le bonheur des ornithologues, dont un Français, Xavier Ruffray, un passionné qui a quitté les rives de l'étang de Thau dans le Languedoc-Roussillon pour les rives du Wolong. Xavier Ruffray veille sur les grues de Sibérie, les oies orientales aux cynoïdes que nous avons découvertes grâce à lui.
Depuis le printemps 2018, on observe un retour des oiseaux migrateurs en masse. En mars 2018, on a compté en une journée plus de 70 000 oies. Oie des moissons et l'oie cynoïde, et puis surtout 1500 grues de Sibérie, qui est une espèce mondialement menacée. Alors là, on a un vol d'oies au-dessus de nous, là, regardez. 5 oies des moissons qui passent probablement vers le nord, là. Sûrement, la prochaine halte pour elle, c'est les grandes plaines du fleuve Amour, qui est pile à la frontière entre la Russie et la Chine.
Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces oies qui viennent de passer?
Elles sont pas si nombreuses que ça dans le monde. L'oie des moissons, la population de Sibérie orientale est estimée à 80 000 individus, donc c'est pas énorme. Et on observe jusqu'à 60 000 individus au lac Wolong, donc quasiment toute la population de Sibérie passe ici, c'est assez extraordinaire. C'était vraiment le milieu à préserver ici.
Xavier Ruffray travaille avec Aurore Malapet, Pierre, une jeune ingénieure écologue, et un ornithologue local, Monsieur Gao, que l'équipe de Biotope a formé. Monsieur Gao a un parcours particulier, c'est un ancien chasseur converti à l'écologie.
Quand j'étais chasseur, dans les années 60-70, il y avait beaucoup d'oiseaux. On ne pouvait pas les distinguer par leur chant tellement ils étaient nombreux. Un jour, les oiseaux ont commencé à attaquer les cultures des paysans pour se nourrir. En seulement quelques jours, ils étaient capables de détruire tout un hectare. Les gens ont acheté des armes pour les tuer. Ils ont même utilisé des poisons. Il y a eu énormément d'oiseaux qui sont morts empoisonnés. Je me souviens qu'en une seule nuit, il y a eu autant d'oiseaux morts que si j'avais passé deux vies entières à les chasser. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je me suis dit, il faut arrêter ça. Sinon, nos enfants ne verront pas ces oiseaux magnifiques. Depuis ce jour-là, je me lève tôt tous les matins pour protéger les oiseaux.
Éveiller les consciences, sensibiliser les jeunes Chinois à la protection des espaces naturels, c'est devenu un objectif de la petite ville de Kangping, sur les bords du lac, où nous avons rencontré Pang Yu.
Je suis diplômée de l'université de Shenyang, j'ai 24 ans. J'ai passé un entretien l'an dernier pour venir travailler au lac Hualong. Étant donné que j'ai fait des études de biologie, je suis donc venue sans hésitation. Au début, je ne connaissais pas grand-chose aux oiseaux. Après plusieurs formations avec Xavier et Monsieur Gao, j'ai fait beaucoup de progrès. J'aime beaucoup mon travail. Je sens que c'est une belle mission ce que l'on fait ici, c'est utile. J'ai appris comment on distingue les oiseaux, comment on les compte, et puis je connais bien le lac. Je suis consciente que la présence d'oiseaux est un critère important pour la qualité de l'environnement.
En ce moment, le lac Hualong est entièrement gelé, il fait moins 20 degrés. Les oiseaux sont déjà partis dans le sud de la Chine.
Nos grues, nos oies, elles sont dans le fameux delta intérieur du Yangtze, où il y a les plus grandes zones humides de Chine et probablement les plus grandes zones humides d'Asie, avec deux grands lacs qui sont très connus en Chine mais méconnus à l'international, qui sont le lac Poyang et le lac Dongting. Et quasiment l'ensemble des oies, des canards et des grues de Sibérie orientale passent l'hiver sur ces deux lacs. C'est assez magique à voir, c'est des lacs immenses. Hein. Le lac Poyang, c'est presque l'équivalent d'un département français, hein, donc c'est très grand. Hein.
Le sauvetage du lac Hualong et le retour des oiseaux migrateurs est un exemple de ce qui peut être fait pour réparer l'erreur humaine. Bientôt, les premiers touristes verts pourront observer les oiseaux à partir de postes dissimulés au bord du lac. C'est peut-être ainsi que la Chine s'éveillera à la sauvegarde de ses espaces naturels.
Reportage en Chine, Dominique André. 1979, le groupe britannique XTC, souvenez-vous, Making Plans for Nigel. We'll be right back. X d'ici à la fin des années 70.
Je suis venu vous parler d'Europe.
France Inter, le 18-20.
Così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati per l'Europe.
Un jour dans le monde.
Géniale.
Eh oui, le jeudi, rendez-vous Europe avec Quentin Dickinson à Bruxelles. Quentin, on revient sur ce que vous avez dit il y a quelques minutes. Quentin, vous prétendez que les Français seraient en panne d'idées neuves et qu'ils pourraient utilement en emprunter des idées, quelques-unes, à l'eurosphère bruxelloise, qui n'a pas de secret pour vous, au moins en ce qui concerne les élections européennes.
Oui, Pierre, on ne peut pas vraiment dire aux milieux européens qu'on peut leur adresser le reproche qu'une absence de réflexion sur le sort de l'européenne serait leur lot quotidien, une absence de réflexion sur leur avenir collectif, en fait. D'ailleurs, cette semaine, j'ai trouvé dans mon courrier deux ouvrages eurocentrés. Le premier intitulé « Demain, tous estoniens », coécrit par l'esprit affûté qu'est Jean Spyri. Le second sous le titre de « Quand l'Europe improvise », d'une autre célébrité europensante, Luc Van Middelaar, 412 pages quand même. Et des livres comme ceux-là, il m'en parvient une bonne dizaine chaque année, généralement bien documentés, parfois bien rédigés, et souvent d'un irréalisme politique total. Et vous l'aurez compris, si l'Europe peut donner l'impression de ne pas progresser, ce n'est pas faute de concentration sur le sujet. En clair, ici, dans l'eurobulle bruxelloise, on n'est jamais en retard d'une gamberge. C'est évidemment un côté assez sympathique de la vie ici, cette préoccupation permanente partagée par chacun, à tous les niveaux, du devenir des institutions qu'ils animent, qu'ils perçoivent comme éternellement perfectibles, mais sans conteste, au service de leurs 500 millions de concitoyens, dont ils déplorent bien souvent qu'ils ne leur en sachent pas davantage gré.
Est-ce qu'il y aurait peut-être aussi un effet gilet jaune dans leur réaction ?
Oui, sans doute en partie, mais l'on constate ici que l'Union européenne a été comme miraculeusement épargnée par l'actuelle vindicte populaire française. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ici, ces dernières semaines, on entend répéter que si en France, on est à la recherche d'idées réformatrices, à Bruxelles, on en a des tiroirs pleins et que les Français, avec ou sans gilet fluorescent, sont les bienvenus pour venir se servir.
Et qu'ont-ils plus précisément à proposer alors pour une relance citoyenne, européenne et française, Quentin ?
Eh bien, actualité oblige, leur horizon du moment, ce sont évidemment les élections européennes qui se dérouleront dans la plupart des 27 le dimanche 26 mai prochain. Et ils notent avec intérêt, voire gourmandise, le lancement imminent en France du dialogue national. Alors, dans leur besace, ils ont quelques formules pour le scrutin européen, la règle proportionnelle atténuée, ce qui n'est pas une surprise, puisque beaucoup de pays l'appliquent déjà, tout comme d'ailleurs le droit de vote et l'éligibilité de tout citoyen européen résident permanent dans un pays de l'UE autre que le sien. Ou alors la comptabilisation spécifique et distincte du vote blanc et du vote nul, ou encore le tirage au sort sur la liste électorale nationale de chaque pays de plusieurs citoyens non candidats, un peu comme on tire au sort les jurés d'une cour d'assises. Il est question que 5 ou 6% des 705 députés européens soient désignés de la sorte. Et personne ici n'a définitivement enterré le projet, cher à Emmanuel Macron, d'une circonscription pan-européenne qui viendrait s'ajouter aux scrutins nationaux dans chacun des 27 pays de l'UE. Tout électeur disposerait donc dans ce système de deux voix.
Rapidement, Quentin, y a-t-il une mesure phare qu'on évoque fréquemment chez vous ?
Oui, c'est le principe du vote préférentiel. Alors de quoi s'agit-il ? Actuellement, les partis politiques présentent chacun une liste dont l'ordre décroissant d'éligibilité des candidats est déterminé de façon formidablement opaque par des apparatchiki inconnus du grand public. L'idée, c'est de leur ôter un peu de leur pouvoir en donnant à l'électeur la possibilité de voter pour un candidat en particulier. Pour être clair, on pourrait voter en cochant la case de tête, comme maintenant, vous faites confiance au parti, ou alors en cochant l'une des cases parmi celles qui apparaissent en regard du nom de chacun des candidats de la liste. Et si même le dernier de la liste atteint le nombre de voix nécessaires, eh bien, il est élu eurodéputé.
Rendez-vous européen, c'était Quentin Dickinson.
Le 18-20, Pierre Veille, sur France Inter.
Et c'est le monde à l'envers avec Jean-Marc Four. Jean-Marc, c'est la rentrée parlementaire aujourd'hui au Congrès américain et donc le début de la nouvelle mandature avec une majorité désormais démocrate à la Chambre des représentants. Donald Trump n'a plus les mains totalement libres. Mais il faut pas croire pour autant que ce changement implique un renouvellement des dirigeants. C'est même plutôt le contraire. À Washington, aujourd'hui, c'est la vieille génération qui tire toutes les ficelles. Et Jean-Marc, c'est votre monde à l'envers.
Il faut se méfier des modes médiatiques. La presse a toujours tendance à survaloriser les faits nouveaux, c'est plus sexy, plus excitant. En l'occurrence, des articles à gogo pour raconter l'arrivée au Congrès américain de nouvelles figures, des jeunes femmes en particulier. En tête de liste, évidemment, Alexandria Ocasio-Cortez, cette très jeune élue, 29 ans, du Bronx à New York. Elle coche toutes les cases, hein, la fille d'émigrés portoricains, charismatique, promotrice d'un renouvellement des cadres à travers son mouvement Brown New Congress. On peut ajouter d'autres noms, Rachida Tlaib, 42 ans, Ilhan Omar, 36 ans, les deux premières femmes de confession musulmane à siéger au Congrès. La première est d'origine palestinienne, la seconde d'origine somalienne. Ou bien encore Charis Davids, 38 ans, première élue amérindienne. On les décrit déjà toutes comme les nouvelles incarnations de cette capacité très américaine à faire émerger, vous savez, des leaders politiques jeunes. Kennedy à la Maison-Blanche à 44 ans, Obama, Clinton à 47 ans. C'est un effet d'optique, c'est une loupe grossissante de la presse si vous voulez. En fait, ce renouvellement reste marginal. Ce sont à l'inverse, oui, vous le disiez, les vétérans qui, comme jamais auparavant, tiennent la boutique aux États-Unis.
Et là, je sens, Jean-Marc, que vous allez nous parler de la femme du jour. C'est Nancy Pelosi qui va être élue tout à l'heure à la tête de la Chambre des représentants.
Oui, mais d'abord, on va quand même rappeler l'âge du capitaine lui-même, Donald Trump, 72 ans. Jamais candidat plus âgé n'avait accédé à la Maison-Blanche. S'il fait un deuxième mandat, il en a l'intention, il l'achèverait à 78 ans. Et ce soir, voici donc, en effet, le grand comeback de Nancy Pelosi. Pour la troisième fois de sa carrière, cette élue de Californie devrait être facilement désignée ce soir Speaker de la Chambre. C'est le troisième dirigeant du pays, hein, dans l'ordre protocolaire. C'est une figure de la vie politique. 15 mandats successifs de députés. Elle fêtera en mars son 79e anniversaire. Vous en voulez davantage? Alors en voici d'autres. Côté républicain, d'abord le président du Sénat, Mitch McConnell, 76 ans. Chuck Grassley, le président de la puissante commission des affaires juridiques, 85 ans. Côté démocrate, tous les ténors sont septuagénaires. Les deux ex-candidats à la Maison-Blanche, évidemment. Bernie Sanders, 76 ans. Hillary Clinton, 71. L'ancien vice-président Joe Biden, 76. Le New Yorkais Michael Bloomberg, 76 aussi. La Californienne Dianne Feinstein, 85. À côté, Elizabeth Warren, vous savez, c'est la première qui vient d'initier sa candidature pour la prochaine présidentielle la semaine dernière. C'est un nouveau-né, elle a 69 ans. On se résume, moyenne d'âge de ces 10 personnages piliers de la vie politique américaine, 77 ans. Ça fait un contraste fort avec, par exemple, l'âge moyen des patrons de la nouvelle économie des GAFA, 45 ans en moyenne.
Mais alors, en même temps, Jean-Marc Four, c'est pas forcément un problème, sinon vous nous faites du jeunisme.
Oui, oui, ben vous avez raison, c'est pas un problème en soi, on sait tous qu'il existe des jeunes crétins, passez-moi l'expression, et des vieux sages. Non, en revanche, c'est révélateur de ce qu'est devenu la politique aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il est impossible de survivre dans ce panier de crabes du Congrès si vous n'êtes pas un maître tacticien rompu à toutes les... Vous avez sans doute vu la série House of Cards. Ben imaginez que la réalité dépasse la fiction. L'ancienneté est un facteur déterminant pour obtenir un poste clé au Sénat, par exemple, président de commission, ou décrocher de gros contributeurs financiers pour les campagnes électorales. L'exemple de Nancy Pelosi, c'est l'incarnation de ce système. Habileté manœuvrière, sens tactique, maîtrise des rouages. Cette fois, quelques jeunes députés démocrates, une vingtaine, ont essayé de monter contre elle une candidature rivale pour diriger la Chambre. Ils ont rapidement renoncé. En l'occurrence, il faut peut-être d'ailleurs se réjouir que Donald Trump trouve sur son chemin une adversaire expérimentée. Mais on peut quand même s'interroger sur la capacité de cette génération à initier une nouvelle vision du monde, à rénover le rôle des États-Unis sur la scène internationale.
Jean-Marc Four, Le Monde à l'envers, à réécouter sur le site de l'émission.